l'antisémitisme, etc. Donc c'est un élément aussi. Mais ce qui est important de rappeler, c'est comment ce mouvement sioniste s'inscrit totalement dans cette aventure coloniale qui marque le 19e et pratiquement la première moitié du 20e siècle.
Alors ce qui revient à dire que quand on dit le conflit israélo-palestinien, cette formule qui revient tout le temps, elle suppose deux forces égal, un bras de fer, enfin tous ces mots sont employés, reviennent tout le temps dans les commentaires et dans le regard qu'on a. Pour vous, c'est non. Il y a un territoire occupé, il n'y a pas deux forces égales, il y a un territoire occupé, il y a un occupé, il y a un occupant.
Oui, je ferai deux remarques à propos de ça. Il y a une forme, j'ai parlé de colonialisme de peuplement, on a connu deux types de colonialisme de peuplement. Celui qui a abouti à l'extermination des populations locales, c'est le cas de l'Australie, ou de la Nouvelle-Zélande, et à l'issue, je dirais, de la décolonisation, c'est toujours les mêmes populations qui dominent. Et puis, là où les populations locales sont restées très largement majoritaires, comme l'Algérie, l'Afrique australe, qu'elle soit anglophone ou portugaise, et où, dans le cadre des luttes pour l'indépendance, on est revenu à la loi de la majorité. La Palestine est un cas intermédiaire, c'est-à-dire que si vous prenez le territoire historique de la Palestine, c'est-à-dire le territoire qui était contrôlé par les Britanniques entre la Première Guerre mondiale et la proclamation de l'État d'Israël, il y a aujourd'hui grosso modo ce qui crée une situation particulière, c'est-à-dire que d'une certaine manière en Algérie vous pouviez envisager de créer l'Algérie avec le départ des pieds noirs, je veux dire, on n'est pas dans cette situation, évidemment, en Israël-Palestine. Donc, il y a un problème démographique, de rapport de force démographique. Mais l'autre aspect, mais qui est plus politique aujourd'hui, quand on entend parler de négociations, quand même, on a l'impression que c'est les Palestiniens et les Israéliens qui négocient de bonne foi à partir des mêmes atouts. Alors que, comme vous dites, il y a un occupant et un occupé, et il y a... Aujourd'hui, l'autorité palestinienne qui négocie, elle n'a aucune carte en main. Elle vit sous occupation et elle vit du bon vouloir des autorités israéliennes.
C'est la foule grave des jours de tension internationale qui accueillait M. Selwyn Lloyd, ministre des Affaires étrangères britannique, et M. Murphy, représentant les États-Unis.
ORTF, 1er août 1956.
M. Pinault les rejoignait à son tour à Downing Street pour examiner les mesures à prendre devant le coup de force accompli par le général Nasser. Le canal de Suez, la route internationale de l'Orient ouverte par Ferdinand de Lesseps, a pris soudain la vedette internationale. Voici à peine deux ans, Nasser et le représentant de la Grande-Bretagne, en signant l'évacuation de Suez, avaient garanti le régime du canal jusqu'au terme du mandat fixé à 1968. Devant une foule en délire comme à chacune de ses apparitions publiques, Nasser a prononcé la nationalisation du canal par une décision unilatérale au mépris de tout droit et de toute légalité. Par ce coup de force qui en rappelle d'autres, Nasser cherche-t-il une issue au dessein des dictateurs ?
Vous commencez par faire appel à votre mémoire, à votre propre histoire. Vous êtes né au Caire, dans une famille, votre mère était juive. Vous avez eu un père copte, c'est ça ?
Oui,
j'oublie
ça.
Toujours.
Oui,
c'est-à-dire que vous êtes au milieu de ces trois cultures, c'est-à-dire la culture arabe, la culture copte, c'est-à-dire chrétienne, et la culture juive. Et donc, vous décrivez, vous commencez par décrire cette Égypte de Nasser au moment de la nationalisation du canal.
En même temps, je dirais, la culture dominante que j'ai, c'est la culture française. Ma langue maternelle, c'est le français. Je vais au lycée français, mais avec cet aspect particulier qu'on se sent partie prenante de ce qui se passe en Égypte. La monarchie a été renversée en 1952. En 1956, Nasser nationalise la compagnie du canal de Suez. Donc on vit une période qui est une période révolutionnaire. Et quand je vais arriver en France, en 1962, je vais me rendre compte que cette période que j'ai vécue, à partir de la France, on l'a vu de manière totalement différente. Le peuple égyptien voit Nasser comme un héros qui a récupéré le canal de Suez qui lui appartient. En France, on se souvient, Guy Mollet, le dirigeant socialiste, traitant Nasser de Hitler au petit pied. Et puis, il y a une haine pour l'Égypte, pour Nasser, qui est immense. Et il y a une incompréhension totale de qu'est-ce que c'est la fierté de la libération. C'est qu'est-ce que Nasser exprime comme, pour la première fois, un Égyptien qui dirige l'Égypte. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. En France, comme je le dis, on étudie la conquête de l'Égypte par Bonaparte, et elle est présentée de manière positive, Bonaparte avec ses savants, et c'est vrai qu'il a fait une description de l'Égypte magnifique, il a apporté des choses. Mais en même temps, ça a été ressenti comme une vraie violation par le